Alléluia, 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 Alléluia.
Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia.
Alléluia, 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 Alléluia.
Frères et sœurs, le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'Évangile de Dieu. Il disait « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança encore un peu, et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, les temps sont accomplis, le royaume de Dieu est tout proche. Alors, c'est pas tellement facile, il y a un concept de théologie que vous connaissez sans doute, qui montre que si le royaume de Dieu est déjà là, eh bien il n'est pas encore tout à fait. On peut s'en rendre compte. Le royaume de Dieu déjà là exprime le lieu où se donne à voir la loi d'amour, qui commence bien sûr avec la prédication de Jésus. Le royaume de Dieu s'incarne, et vous le savez, lorsque à Noël nous lisions un texte de saint Jean, il est dit « Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous ». Le Verbe, dans une phrase, c'est ce qui donne du sens à toute la phrase. Le Verbe, c'est la parole. C'est le mot donc qui vient donner sens à nos humanités. Cette parole que nous célébrons aujourd'hui davantage, affirmant qu'elle est vivante, elle nous encourage vers la vie et vers l'amour en plénitude. Mais si le royaume de Dieu est bien en germe avec l'arrivée de Jésus, nous constatons que le royaume n'est pas encore totalement arrivé. Il sera totalement dévoilé, eh bien, dans le sein de Dieu, quand nous serons devant le Père, nous serons à ce moment-là, nous serons dans la plénitude de l'amour et de la vie éternelle. Et donc, il y a tout ce chemin à faire en attendant. 2000 ans après le Christ, nous sommes toujours dans les douleurs de l'enfantement, pourrait-on dire, au milieu d'un monde qui peine à reconnaître cette parole salvatrice donnée il y a 2000 ans, cette parole de foi, d'espérance et de charité. Alors nous sommes un peu comme les disciples de Jean-Baptiste qui demandaient à Jean-Baptiste « Mais que devons-nous faire ?» Eh bien Jésus nous donne trois mots que nous allons reprendre. « Convertissez-vous, venez à ma suite, croyez à l'Évangile. » Convertissez-vous, et bien se convertir, ce n'est pas changer de religion, vous le savez, c'est se tourner vers. Convertirez, c'est se tourner avec. Si vous voulez une image, bien prenez celle des tournesols qui se tournent toujours du côté du soleil. Nous aussi, nous tournons nos regards et notre attention vers le Christ, qui est le maître spirituel dont nous avons besoin pour une vie d'équilibre, d'unité et de paix. Le pape François dit que se convertir, c'est changer de mentalité. Voilà, c'est peut-être ça qu'il nous faut comprendre. C'est quitter un chemin de réflexes et d'habitudes, parfois mensongères, égoïstes ou violentes, ces aliénations idéologiques qui sont des impasses, nous le savons trop. Alors il faut changer de mentalité, avoir bien sûr conscience du mal qui nous séduit, mais convertir notre chemin, nos propos, notre intelligence vers les béatitudes qui effectivement nous donnent une ou toute autre direction. C'est un peu ce soleil vers lequel nous nous convertissons. Le deuxième point, c'est « Venez à ma suite », nous l'avons entendu. Alors Jésus nous demande, il a demandé à ceux qui étaient proches de lui d'être des apôtres. Il a demandé à d'autres d'être des disciples, d'être des fidèles, d'être des témoins, d'être des pêcheurs d'hommes. Il y a beaucoup de mots qui caractérisent un peu tous ceux qui suivent le Christ d'une manière ou d'une autre. Alors ce ne sont pas bien sûr des prosélytes que le Christ nous demande d'être, des prosélytes qui veulent gonfler les chiffres d'une secte, accroître les militants d'un parti, ni même grossir les rangs musclés d'un dictateur, bien sûr. La métaphore de la pêche que prend Jésus n'est pas, vous l'avez bien compris, la capture des hommes pour les asservir ou pour les dominer, mais au contraire pour les sauver de la noyade. Voilà, je pense qu'un certain nombre de contemporains de Jésus ne savaient pas nager. Ils savaient, ils étaient de bons pêcheurs, mais ils ne savaient peut-être pas nager, et plonger dans l'eau, c'était à coup sûr mourir. Puisqu'il y avait des léviathans, il y avait des monstres marins, et tout le monde craignait de tomber dans l'eau. Et donc, sauver, repêcher, comme on dit, eh bien, c'est permettre que, peut-être, un sauvetage soit fait pour que, eh bien, la vie reprenne et que, finalement, on puisse vivre tranquillement. Être pêcheur d'hommes, c'est contribuer à ce sauvetage spirituel. Et Jésus nous dira, je suis venu sauver ceux qui étaient perdus. D'ailleurs, tout l'évangile nous l'enseigne. À longueur d'année, nous entendons des paraboles qui montrent bien le salut et la manière dont le Christ veut nous sauver. C'est l'enfant prodigue accueilli par son père. C'est le bon samaritain qui soigne l'homme attaqué par des bandits. C'est la femme adultère sauvée de la lapidation. Et puis, c'est bien sûr, comme nous le savons tous, le bon larron qui, tout à fait au dernier moment de sa vie, eh bien, va recevoir du Christ cette assurance qu'il sera sauvé dans la vie éternelle et pardonné pour entrer dans cette vie. Le troisième mot que Jésus nous laisse, c'est « croyez à l'Évangile ». Bien plus qu'au temps de Jésus, les propositions de sens, de philosophie et de religion sont aujourd'hui multiples et bousculent en nous tout ce que nous pouvons comprendre et regarder pour nous aider à trouver un chemin de bonheur. Et il y en a beaucoup. Pour beaucoup, c'est l'argent et la course au profit, nous le savons bien. Pour d'autres, c'est l'ancrage dans des idéologies comme réponse étroite et sectaire à des vrais problèmes sociaux. Pour d'autres, c'est la voie des croyances ésotériques et bien d'autres choses encore du côté de la magie. Et vous connaissez tout cela. C'est aussi la culture obsessionnelle du développement personnel qui devient pour certains une véritable religion. Et puis il y a bien ces grands courants. Vous savez qu'aujourd'hui, nous commémorons le centenaire de la mort de Lénine. Il est mort le 21 janvier 1924. Voilà. Eh bien, c'était sans doute une espérance christique que ce mouvement qui est parti, mais nous savons bien dans quelle mesure il est tombé dans les pires désastres, avec sans doute en un siècle plus de morts que dans la plupart de tous les siècles. Et donc nous pouvons être consternés par ces chemins qui existent encore. Nous avons en Corée du Nord encore un bel exemple. Donc nous avons plein de chemins qui s'ouvrent à nous, plein de propositions, et il nous faut en choisir une. Et pourquoi ne pas choisir le chemin du Christ ? Aujourd'hui, 56% des Français se déclarent athées. On voit que le chemin du Christ n'est plus une priorité pour beaucoup. Croire à l'Évangile, c'est, et vous le faites sans doute, expérimenter la loi d'amour, la loi de don et de pardon. Pas très simple, mais c'est si beau. Et ça nous donne tellement de joie et de paix entre nous. Évidemment, il faut sortir de son ego et d'une recherche exclusive de soi-même. Je cite souvent ce mot de Pascal Bruckner, l'essayiste, qui disait « Tout le monde me doit tout, je ne dois rien à personne, Tel est, semble-t-il, le commandement de notre société, de nos sociétés. Eh bien non, bien sûr qu'il faut prendre avec l'Évangile le chemin du service, du partage et de la simplicité. Je vous laisse seulement deux convictions à méditer, parce que évidemment une homélie doit se terminer. Je vous laisse seulement deux termes, il faudrait parler beaucoup plus. Le chemin du Christ est parfaitement non-violent. Non-violent. Il apporte l'intelligence des relations humaines, non plus basée sur l'instinct de rivalité ou de domination, mais basée sur la confiance et le respect, essentiellement. Alors vous me direz, l'Église n'a pas toujours vécu ça dans son histoire, mais bien entendu, et ça peut continuer encore. Mais n'empêche que le message du Christ, c'est ceci. Ça a été rappelé par un certain nombre d'auteurs. Je cite un seul, qui est de René Girard, 1978 pour les plus anciens. « Des choses cachées depuis la fondation du monde. » Eh bien, voilà ce que le Christ nous apprend. Ces choses cachées qui sont le cœur de Dieu et qui vient respirer en nous la paix et la non-violence. Le deuxième mot, bien sûr, que je voulais vous laisser, c'est « Le chemin du Christ est un chemin d'unité et de communion. » Cette semaine, on vous l'a dit, c'est la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Alors je partage un peu le propos du pasteur Yvan Carluère, qui s'était noté dans la croix de jeudi dernier. « Je doute que l'œcuménisme des grandes réunions au sommet des églises fasse avancer les choses, ceux qui sont là-haut. Si les responsables religieux ne freinent pas le mouvement œcuménique, ce serait déjà pas si mal. » Voilà, c'est vrai que nos grandes centrales ont beaucoup du mal à réaliser cette communion fraternelle. Et c'est vrai que c'est souvent... les laïcs, les hommes et les femmes qui communient ensemble, qui se voient ensemble, qui partagent ensemble, qui font l'unité des chrétiens. Vous savez, j'étais précédemment curé de Saint-Irénée, et à Saint-Irénée, on a cette chance d'avoir la crypte de Saint-Irénée, où il est enterré. Et vous savez que Saint-Irénée est avant toutes les divisions. Et donc, lorsqu'on vient dans l'église de Saint-Irénée, ou sur le tombeau de Saint-Irénée, on est frères, sans problème, frères orthodoxes, catholiques et protestants, et bien d'autres encore. Voilà, donc je vous laisse ce mot. Les institutions ecclésiales sont peut-être lentes à faire cette véritable communion, et je vous le disais tout à l'heure, à l'intérieur même de ces confessions, c'est là peut-être que aujourd'hui est le problème le plus difficile. Je pense que les orthodoxes aujourd'hui, avec ce qui se passe en Russie et Kirill, vont avoir du mal à faire cette unité. Ils ont un mal fou à faire un concile depuis des années. Les catholiques, c'est pareil, entre les progressistes et les traditionalistes, comme on dit, il y a souvent des guerres lamentables, lamentables. Alors donc, il faut essayer de vivre cette unité, parce que c'est beau, parce qu'encore une fois, le respect est ce qui nous est demandé par le Christ. En conclusion, je dirais seulement ce mot qu'il nous faut garder aussi, aussitôt, ils le suivirent, aussitôt, voilà. Alors bien sûr, on a peur de se lancer à la suite du Christ. On n'a pas beaucoup de temps, on a beaucoup de travaux, on a beaucoup de choses à faire. Et donc c'est un petit peu difficile parfois de se lancer à la suite, et il faut suivre une pédagogie. Alors je crois que ceux qui ont préparé la messe aujourd'hui, ce sont l'équipe des Ignatiens. Ignatiens, c'est Saint Ignace de Loyola, c'est les Jésuites, n'est-ce pas? Eh bien, avec la Compagnie de Jésus, retenez ces trois verbes. Vous les méditerez cette semaine. Discerner, choisir et décider. Discerner, il faut se rendre compte un peu de tout ce qui existe. Choisir, parce qu'à un moment donné, il ne faut pas rester au milieu, il faut y aller. Décider, donc, il faut s'engager. Et le Christ nous encourage, il nous dira cette belle phrase que j'aime beaucoup, parce qu'elle nous engage véritablement à sa suite. « Vous ferez les œuvres que je fais, dit Jésus. Vous en ferez même de plus grandes. » Ça alors, c'est étonnant. « Vous en ferez même de plus grandes, car je vais au Père et je vous laisse cette responsabilité d'aimer. »